Bonjour, c'est l'Atelier des médias. Ma voix ne vous est pas forcément familière, mais l'Atelier des médias est loin, très loin, de m'être étranger. Et vous allez comprendre pourquoi. Ça fait des années maintenant que j'écoute cette belle émission et que j'observe ce que le numérique fait de nous, ou plutôt ce que nous pouvons faire avec le numérique. Oui, le numérique chamboule tout, la façon dont on enquête sur le monde des affaires, sur l'extraction minière ou le pillage des ressources naturelles, mais surtout, il permet d'exiger l'impossible, un accès libre et ouvert à des données publiques. Mais là, vous vous en doutez, la route est encore longue et les obstacles innombrables.
On peut toujours y réfléchir.
Bref, l'Atelier des médias, c'est ce subtil mélange d'exigences et de bidouilles, de reportages et d'entretiens, d'échanges et d'observations des nouvelles pratiques journalistiques, de la société numérique, mais aussi de toutes ces petites innovations qui changent la façon dont on s'informe, que l'on soit à Cotonou, à Beyrouth, à Paris ou à Singapour. L'Atelier des médias, enfin, c'est une belle histoire, une aventure au long cours aussi et à titre personnel, parce qu'il faut bien finir par dire je. Eh bien, je suis très heureux, immensément heureux d'être là aux manettes de l'atelier, dans le sillage de Philippe Couve, avec qui j'ai tant appris, et de Ziad Malouf qui m'a proposé au printemps dernier de reprendre l'émission pour les 6 mois à venir et qui, par la même occasion, me permettra, je l'espère, de vous faire partager mon immense appétit de connaissances et d'histoire pour ce monde qui se réinvente sous nos yeux. Alors nous y voilà, je suis Julien Lebotte et je suis entouré de toute l'équipe de l'Atelier des médias, Manon Mella, Mathias Virili, Camille Deloche et Simon De Creuse à la réalisation.
L'Atelier des médias, à l'écoute de la société numérique et de l'innovation.
Julien Lebotte.
Avez-vous remarqué comme il est parfois compliqué de trouver l'info que l'on cherche sur son site d'info préféré? Si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a un problème d'expérience utilisateur ou UX pour les intimes. Pour ceux qui n'y connaissent rien, l'UX c'est un peu comme E égale MC2. C'est une formule simple censée résumer un problème complexe. Comment aujourd'hui peut-on repenser la façon dont les internautes accèdent à l'information? Ce sera là notre dossier de la semaine que l'on retrouvera en seconde partie d'émission avec Karen Bastien de WeDo Data, Florent Guerlin de DataGif et Flavien Plouzenec de la communauté UX for News. Dans quelques minutes, Yann Guégan nous montrera jusqu'à quel point les médias déforment notre vision du monde, mais tout de suite, on part à Tunis pour en savoir plus sur le Media Ownership Monitor en appelant Monia Ben Hamadi, qui est directrice éditoriale du site d'investigation Intifada.
Allô ?
Bonjour Monia.
Bonjour.
Je vous appelle pour que vous nous parliez d'un projet lancé cet été par Alrat, une ONG tunisienne spécialisée dans le développement des médias indépendants. En partenariat avec Reporters sans frontières, je veux parler du Media Ownership Monitor, ou pour le dire en français, de l'Observatoire de la propriété des médias. Alors Monia Ben Hamadi, comment ça marche ce Media Ownership Monitor ?
Alors Media Ownership Monitor, c'est une sorte de base de données des principaux médias tunisiens sur 4 supports, donc télévision, radio, presse écrite et médias en ligne, qui permet de connaître les propriétaires de ces médias, les principaux actionnaires de ces médias et éventuellement leurs intérêts économiques et politiques en Tunisie.
Et pourquoi est-il si important de poser cette question en Tunisie notamment ?
Alors en Tunisie ou dans n'importe quel autre pays, même d'ailleurs en France, c'est important de poser cette question parce que pour connaître la fiabilité d'une information, il est nécessaire, en tout cas c'est un des critères, de connaître qui est derrière ce média, quels sont ses intérêts, qu'ils soient politiques ou économiques, pour savoir quel type d'information il va nous transmettre.
Pour savoir s'il y a des biais politiques ou des choses comme ça. Comment avez-vous travaillé finalement pour structurer cette base de données ?
Alors, le Media Ownership Monitor a été fait par Reporters sans frontières en association avec d'autres organisations locales au Cambodge et en Colombie, et c'est toujours la même méthodologie. C'est-à-dire que on essaye déjà de connaître les audiences des médias sur les 4 supports pour établir les principaux médias, 10 dans chaque support. Maintenant, on a eu un gros problème de mesure d'audience en Tunisie parce que les instituts de sondage ne sont pas non plus fiables et ont eux-mêmes des intérêts avec certains médias. Donc on a décidé de ne pas établir de classement. Mais en tout cas, on a choisi ces 10 médias par support et par la suite, on les contacte un par un en leur donnant un formulaire à remplir et on établit à partir des réponses qu'ils vont nous donner et après les avoir contactés directement un classement de transparence, c'est-à-dire quel est le média qui peut être le plus transparent ou le moins transparent par rapport à la propriété des médias.
Et alors, en structurant cette base de données et cet observatoire de la propriété des médias, avez-vous appris ou découvert des choses ?
Alors oui, on a appris beaucoup de choses. Par exemple, le média le plus important, le support médiatique le plus important qui est la télévision, beaucoup des principales télévisions tunisiennes sont tenues ou ont été tenues par des hommes qui ont des intérêts politiques, qui sont soit chefs de partis politiques, soit cadres dans des partis politiques, soit qui ne cachent pas leur sympathie pour des partis politiques. Et donc, pour ce média qui est très important et qui a une audience assez importante par rapport à la presse écrite, ou la radio ou les médias en ligne, c'est très important de savoir quelle sympathie politique peut avoir une télévision donnée.
Alors, dernière question toute simple, si nos auditeurs ont envie de se fabriquer un observatoire sur le même modèle, est-ce que vous avez des conseils? Qui est-ce qu'il faut contacter? Où est-ce qu'on peut trouver toutes les informations disponibles pour structurer un observatoire de la propriété des médias?
Alors, notre méthodologie est accessible en ligne. C'est accessible à de nombreuses organisations. Maintenant, il faut du temps, il faut des ressources humaines et pouvoir avoir accès à ces médias-là et pouvoir les convaincre de donner des informations. Et ensuite, de voir légalement quelles sont les informations qu'on peut trouver. Par exemple, on peut trouver en Tunisie beaucoup d'informations dans le registre du commerce. Ce sont des informations publiques et ce sont des informations légales qui sont transmises par les propriétaires de médias eux-mêmes. Maintenant, il faut de l'argent pour payer ces documents-là, comme dans beaucoup d'autres pays. Et puis, aller prendre des rendez-vous, aller essayer de voir un par un les actionnaires ou les propriétaires des médias. Et puis aussi faire un travail un peu d'enquête ou d'investigation pour connaître leurs intérêts cachés, on va dire.
Alors, pour retrouver votre observatoire, je rappelle qu'il suffit de taper Media Ownership Monitor Tunisie, par exemple, sur n'importe quel moteur de recherche. Monia Ben Hamadi, je rappelle que vous êtes directrice éditoriale du site Inkifada en Tunisie. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.
Merci à vous.
L'Atelier des médias, le magazine du numérique et de l'innovation.
Méfiez-vous des algorithmes, ils sont parfois susceptibles de s'emballer pour des rumeurs. Facebook en sait quelque chose. La firme américaine a récemment confié la gestion de ses sujets tendances, un service uniquement disponible aux États-Unis, compilant les sujets les plus lus sur son réseau social, à des robots. Pourquoi? Pour en finir avec des accusations de partialité en provenance du camp conservateur. Grand mal lui en a pris puisque le 29 août dernier, un article truffé d'inexactitudes en provenance d'un site favorable au candidat Donald Trump s'est retrouvé en tête de ces fameuses tendances, obligeant Facebook à supprimer très vite cet article. Les algorithmes, on le voit, ont encore des progrès à faire en matière de discernement. On continue avec le Festival international du photojournalisme Visa pour l'image qui vient de s'ouvrir à Perpignan et c'est le photojournaliste d'origine suédoise Magnus Wenman qui s'est vu décerner le prix de l'information numérique pour son projet Fatima's Drawing mêlant vidéo et animation. Je ne vous en dis pas plus, on en reparle la semaine prochaine dans l'atelier. L'atelier des médias souhaite la bienvenue à France Info, la nouvelle chaîne publique d'information en continu associant France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA, mais aussi à la revue Topo, dernier est né de la très belle revue dessinée. Et on termine les brèves de la semaine avec une invitation. N'hésitez pas à partager avec l'atelier les nouveaux projets éditoriaux que vous avez lancés, les rédactions mobiles que vous montez, les startups de l'info que vous identifiez, les hackathons, les initiatives open data, bref, tenez-nous au courant et on suivra ça de très près.
RFI.
Les médias nous donnent-ils une vision déformée du monde qui nous entoure? La réponse à cette question est simple, évidemment. Mais là où ça se complique, c'est quand il s'agit de le démontrer. C'est lors de la première édition des ateliers de couture organisés en juillet dernier par l'équipe de 21 et de 6 mois que notre reporter Mathias Virilli est parti à la rencontre de Yann Guégan qui est journaliste et qui a tenté de répondre à cette question.
Alors moi j'aime bien utiliser la data, explorer les données pour regarder comment les journalistes travaillent, enfin essayer d'évaluer un peu leur travail, avoir un regard un peu critique sur ce qui est produit par les médias. Et donc je me suis lancé là-dedans avec un point de départ assez simple techniquement qui était de regarder pour chaque site de médias, enfin de grands médias français, pour chaque pays donné, combien de fois le nom du pays apparaissait dans les résultats de Google, puisque quand on tape une recherche dans Google, on a un petit compteur qui apparaît avec le nombre d'occurrences qui ont été enregistrées par Google. C'est pas un compteur qui est toujours très fiable, mais enfin avec en bricolant un petit peu, j'ai réussi à avoir comme ça des séries de données et à donc réaliser cette série de cartes. Donc la particularité, c'est que ce sont des anamorphoses. Donc on va déformer chaque pays en fonction d'un critère pour avoir quelque chose un petit peu à la fois parlant et un peu artistique, un peu joli. Donc on va avoir des cartes du monde déformées et chaque pays aura une taille relative au nombre de citations pour un média donné. C'est vraiment un travail avec plusieurs étapes successives. La première étape, c'est l'extraction de données en français, mais c'est vrai qu'on utilise plutôt le mot scrapping. Alors là, en l'occurrence, j'ai fait un script en Python, un langage de programmation qui s'appelle Python. J'ai utilisé ce script pour solliciter Google, envoyer juste une toute petite information pour dire à Google, vas-y, donne-moi le résultat pour l'Indonésie sur France Inter. Combien de citations tu as sur franceinter.com ou sur rfi.fr. On demande à Google de chercher, non pas sur l'ensemble de sa base, mais uniquement sur toutes les pages, par exemple, de rfi.fr qu'il a enregistrées déjà, qu'il a déjà dans sa base. Et donc Google renvoie à la page. Et ensuite, moi, j'isole juste la petite information qui m'intéresse, c'est-à-dire le chiffre du nombre de résultats. Et ensuite, mon script, il passe au pays suivant. Il va pouvoir faire comme ça plus de 200 pays pour chaque média, mais le faire en quelques secondes, voire en quelques millisecondes. Et là, on peut commencer à bosser.
Est-ce que cette démarche de data scrapping, donc d'extraction des données, est quelque chose que tout le monde peut faire ?
Alors ça dépend du niveau de complexité. Là c'est un petit peu complexe, pas forcément le script lui-même, c'est du Python, ça doit faire au maximum à tout casser 27 lignes de code, donc c'est pas la mort. Mais en fait chaque chantier de scrapping, d'extraction est différent. Pour chaque scrapping, on va décider quel est l'outil le plus approprié, et puis même chaque data journaliste a ses petites habitudes, ses langages qu'il maîtrise ou ses outils qu'il maîtrise et qu'il maîtrise pas. Mais c'est pas non plus hors de portée. Puis c'est tellement utile finalement quand on commence à avoir des idées comme ça de scrapping que petit à petit on se perfectionne, et puis ça devient un petit jeu aussi pour trouver le bon outil, la bonne méthode et la petite bidouille qui va faire qu'on récupère les données.
Alors une fois que tu as eu recueilli toutes ces données, toi ta démarche ça a été de mettre en forme l'information que tu avais recueillie et donc de proposer au final une data visualisation, donc une visualisation des données que tu avais récoltées par une carte anamorphosée. Est-ce que dans ce processus de visualisation il y a des étapes qui sont un peu ardues pour si on veut essayer de s'y mettre ?
Alors, les cartes, c'est un domaine où il y a beaucoup d'outils, et la bonne nouvelle quand même pour les auditeurs de l'atelier des médias, c'est que ces outils sont de plus en plus faciles à utiliser et à prendre en main. Il y a eu vraiment des progrès. Si vous voulez placer des points sur une carte en fonction de leur code postal ou du numéro de la rue ou de la ville, vous avez besoin d'une petite moulinette qui va prendre chaque adresse, par exemple, ou chaque code postal, et va en déduire une latitude et une longitude en se basant sur des références existantes. C'est exactement ce qui se passe quand vous faites une recherche dans Google Maps. Vous dites, je cherche le 23 avenue Général de Gaulle à Couture-sur-Garonne. Et ce que fait Google, c'est qu'il fait la correspondance entre cette adresse postale et un point avec une latitude et une longitude. Et puis, il vous met une petite bulle sur la carte pour vous dire, c'est à cet endroit-là. Sauf que nous, on ne va pas le faire à la main pour chaque adresse. Parfois, on va faire des cartes. Moi, j'ai fait des cartes avec, des centaines ou des milliers de points. Et dans ces cas-là, on va devoir utiliser des outils de géoréférencement. Et dans ce domaine, CartoDB est assez fortiche et s'en sort pas mal. Il y a toujours quelques bugs ou quelques villes qu'il ne connaît pas, par exemple, ou qui confond, qui va placer aux États-Unis au lieu de les placer en France. Parce qu'il y a Mais bon, grosso modo, il n'est pas mauvais. Et Data Wrapper aussi, qui est un très chouette service de graphique, qui là aussi est vraiment bien, qui prend pas à pas, qui vous demande voilà, quels sont les pays, quel est le continent que vous voulez faire figurer, quelles sont les informations, est-ce que vous voulez des cercles dessus, est-ce que vous voulez colorier les pays, est-ce que vous voulez. Voilà. Moi, comme je suis un peu, spécial, j'ai choisi la difficulté. C'est-à-dire que j'ai cherché un mode de visualisation. J'avais envie, en tout cas, d'un mode de visualisation qui n'existe pas trop dans les outils dont je viens de parler. Donc, j'ai utilisé un petit soft qui s'appelle Skeptoad et qui marche vraiment bien. Mais alors, bon, c'est pas la carto en général. C'est de plus en plus simple. Après, c'est vrai que si on veut faire des choses un peu poussées ou un peu original ou un peu décalé, on va passer sur des solutions qui sont un peu plus artisanales, quoi. Mais voilà.
Est-ce que tu peux nous dire quel résultat tu as trouvé en comparant les 20 ou 25 médias que tu avais sélectionnés ?
Déjà, la première chose, c'est que on voit de manière très très visuelle, pour le coup, les différences de lignes éditoriales et les différences de choix éditoriaux des différentes rédactions étudiées. Si vous regardez la carte faite par Le Monde et celle faite par Le Monde diplomatique. L'Amérique du Sud va être beaucoup plus grosse dans la carte du monde diplomatique, également pour l'Algérie ou le Maghreb, parce que traditionnellement, c'est un média qui s'intéresse à ces pays-là. Donc, On voit ça, on voit quand on voit RFI, l'Afrique est énorme. Je crois que vous avez beaucoup de contenu publié sur RFI.fr qui traite de l'Afrique, des différents pays d'Afrique, mais on peut voir quand même que c'est pas forcément... L'Afrique est certes plus grosse, mais elle a des proportions différentes. Alors, ça ressemble pas tout à fait à l'Afrique. Certains pays, par exemple la Côte d'Ivoire, on peut le voir ici, est nettement plus grosse que ce qu'elle est en réalité, enfin que ce qu'elle est sur la carte de base, la carte qui est non déformée. Et je suis sûr que si on cherche un petit peu, si on fouine un peu, on va voir aussi que même à RFI.fr, le traitement de l'Afrique n'est pas le même. Je pense que par exemple, parler davantage des pays francophones que des pays anglophones. Bon, ce sera à vérifier, mais je pense que c'est des choses qui vont apparaître. Ça, c'est une première chose. Après, il y a une deuxième conclusion qui est intéressante, c'est que il y a des sites où au contraire, il y a des ressemblances, alors que ce sont des sites qui sont assez différents, en tout cas dans l'image que se font les gens. Le Figaro et Libération, dans l'imaginaire des gens, enfin des lecteurs, c'est deux quotidiens qui sont bien différents, l'un de gauche, l'autre de droite, et qui ont des visions du monde différentes. Et si on regarde leurs cartes, elles sont finalement assez proches. Et pourquoi c'est comme ça? Il n'y a pas de mystère, c'est qu'en fait, ces médias-là reprennent beaucoup, publient beaucoup de dépêches AFP, parfois retravaillées, parfois réécrites, et finalement, toute une partie de leur contenu aura une source commune. Par ailleurs, ce sont des quotidiens, donc ils réagissent de manière plus réactive à l'actualité, donc ils sont davantage pilotés, on va dire, par l'actualité. Mais je sais qu'à Libération, par exemple, il y a un journaliste qui m'avait dit « Ah, mais c'est le monde selon l'AFP, en fait, finalement, parce qu'il y a beaucoup de contenus qui sont un peu communs. » Et j'ai dit « Bah oui, mais ça aussi, c'est une information. C'est que les deux journaux qui ont pourtant des identités très différentes vont se retrouver avec des cartes relativement proches, quoi. » Les journalistes vont souvent s'abriter derrière cette espèce d'excuse magique qui est de dire « Mais moi, je parle de l'actualité, de ce qui est dans l'actualité. C'est dans l'actu, c'est pas dans l'actu, etc. » Et en fait, en vrai, l'actualité, ça n'existe pas. C'est une construction intellectuelle et c'est une construction sociale. Par exemple, il va y avoir un attentat en Indonésie, on va pas en parler, parce qu'un journal en parle, il y aura quelque part un chef de service qui a dit « Mais regardez, le Figaro a parlé de l'attentat à l'Indonésie, nous on n'a rien fait, alors que c'est super important, il se passe des choses folles, ouais. » Et on n'en parle pas. Et du coup, le journal va se rattraper et du coup va faire un article sur l'attentat en Indonésie. Donc il y a un suivisme qui est assez fort. Et on apprend quand même des choses aussi, notamment les pays du Sud, on va dire en général, sont beaucoup moins bien traités, beaucoup moins bien présents sur ces cartes. Là, je me suis amusé, par exemple, à prendre les 15 pays les plus peuplés du monde et voir est-ce qu'un pays peuplé est souvent cité, quoi. Et en fait, on découvre que non, notamment parce qu'il y a, parmi les pays les plus peuplés du monde, il y a des pays comme les Philippines, il y a des pays comme le Mexique, des pays comme le Pakistan, l'Indonésie, qui sont quasiment absents des radars, en tout cas de la plupart des médias, même si c'est des géants démographiques, en fait. Et là, ça devient un peu vertigineux, quand même. Effectivement, on parle davantage des pays qui sont proches, ça, d'accord. Mais enfin, un pays comme les États-Unis ne sont pas si près que ça, alors que vous allez avoir des pays d'Europe de l'Est, par exemple, qui sont un peu oubliés, qui sont pourtant plus proches physiquement. Un pays comme l'Australie va peut-être aussi être plus cité ou plus présent dans ces journaux, parce qu'il y a une proximité culturelle derrière. Donc c'est pas qu'une question de proximité géographique, c'est aussi une question de proximité culturelle. Et là, tout d'un coup, tout devient plus compliqué, finalement, puisqu'on était parti de l'actualité qui était censée être la même pour tous, qui était censée être une création comme ça, existant dans le monde pur, et dans lequel on vient se greffer, qu'on vient comme ça ausculter pour savoir ce qu'on va raconter dans nos journaux et dans nos médias. Et puis on s'aperçoit qu'il y a toute une couche, et tout ça est finalement très humain, et tout ça est très artisanal, et il va dépendre d'un média et d'un autre. Le côté artisanal, pourquoi pas, et le côté chacun défend sa vision et défend ses choix éditoriaux, c'est très bien. Le côté un peu flippant, c'est que du coup, il y a quand même pas des pays qui passent à l'as, en tout cas dans les médias les plus populaires, les plus suivis, il y a quand même de sacrés trous dans la raquette.
Est-ce que tu as rencontré dans ton travail peut-être des anomalies, c'est-à-dire des données qui ne s'expliquaient pas, ou peut-être justement un défaut dans le bassin de données recueillies? Est-ce que ça t'est arrivé?
Oui, c'est j'ai dit que c'était un chantier compliqué au niveau de l'extraction, mais aussi parce que il y a pas mal de pièges. Donc le Chili est un piège, par exemple, puisque les sites d'information publient des informations sur le Chili, mais publient aussi des recettes de chili con carne ou ce genre de choses. Et pour certains sites qui vont avoir une rubrique gastronomie importante, on va se retrouver par exemple tout d'un coup avec le Chili en énorme. Donc dès que j'ai pu déceler ce genre de problème, j'ai fait des petits patchs, des petits bricolages pour éviter ce genre de choses.
Merci beaucoup, Yann Guégan.
Merci.
Toutes les références sur cet atelier de Yann Guégan, mais aussi sa boîte à outils du parfait journaliste de données, sont à retrouver sur atelier.rfi.fr. Après l'info, dans quelques minutes, on se retrouve pour parler expérience utilisateur. À tout de suite.
L'atelier des médias.
Atelier des médias, deuxième partie. Alors pourquoi attaquer la rentrée en nous parlant d'UX ou pour le dire en français, d'expérience utilisateur? C'est une expression qui semble faite pour les geeks de service, un condensé d'équations qui fleure bon la mécanique aléatoire, je vous vois venir avec vos gros yeux. Eh bien non, en réalité, s'intéresser à l'expérience utilisateur, c'est peut-être réussir à changer la donne avec votre blog, votre appli ou votre enquête. Pourquoi? Parce que l'UX, c'est l'autre nom de ce qu'il nous arrive quand on tombe sur un site et qu'on ne trouve pas ce que l'on cherche. La dernière fois que vous vous êtes dit sur votre site préféré « Mais il est où ce podcast ?», vous avez parfaitement résumé les enjeux de l'UX. Dans un monde où il y a beaucoup de bruit, énormément de données et un déluge permanent de notifications, il faut redonner du sens à l'info et des perspectives aux internautes. Et c'est là précisément qu'interviennent les artisans de l'expérience utilisateur. Ils savent qu'on ne pense plus à un reportage au long cours, une enquête réalisée à partir de données ou un site d'information de la même manière. En gros, et pour le dire autrement, le contenu ne suffit plus. Je peux avoir la meilleure enquête qui soit sur des malversations, du pillage de ressources naturelles, voire les inégalités salariales hommes-femmes. Ce n'est pas suffisant, il faut que j'organise tout ça pour le mettre correctement à la disposition du lecteur. Et l'internaute, aujourd'hui, a ses raisons que la bonne vieille raison journalistique ne comprend plus. D'ailleurs, et c'est un secret de Polichinelle, l'un des trucs qui a tout changé ces dernières années, c'est bien sûr le mobile. Alors, Florent Guerlain, je ne vais pas dérouler ici votre CV, non, tout ce que je vais dire, c'est la chose suivante. Vous êtes cofondateur de Datagif, une agence qui est branchée UX et qui a pas mal travaillé avec des médias en France, au Maroc et depuis peu au Liban. Dites-moi, j'ai pas raconté trop de bêtises ?
Non, c'était assez clair. Je pense qu'on peut peut-être détailler un peu plus, mais je trouvais ça très clair. C'est une bonne introduction.
Alors, à suivre votre travail à Datagif, ça a l'air très 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 compliqué quand on travaille sur l'UX. On écoute un petit extrait d'une vidéo que l'on trouve sur la chaîne YouTube de Datagif.
Okay, Ronnie, I'm ready to start motion station 4.
Alors, on peut lire ceci dans cette vidéo. L'année 2015 a été forte en internet, en infographie, en expérience, en pictogramme, en affiche, en habillage de bus, en illustration, en carnet, en patterns, en emoji, en JPEG, en PDF, en coloriage, en site, en animation, en GIF, en wireframes, en graphique, en logo et en couleur. Florian Guerlain, il faut vraiment de tout ça pour faire un nouveau média ?
Il ne faut pas forcément tous ces ingrédients à la fois. En tout cas, à chaque fois qu'on aborde la refonte d'un média, on essaie de jamais faire la même chose. En fait, chaque média est vraiment différent, s'adresse à parle de choses différentes, s'adresse à un lecteur qui est différent. Et donc, on doit proposer à chaque fois une expérience qui est différente.
Alors justement, j'ai bien envie que vous nous aidiez à comprendre la méthode, puisqu'on parle d'expérience utilisateur. En fait, il y a beaucoup de gens, notamment des journalistes et des experts, qui se sont mis à réfléchir à la façon dont on travaille quand on crée un nouveau média. Et vous avez vous-même en fait travaillé sur le projet du desk.ma, qui est un site d'investigation au Maroc. Oui. Vous avez travaillé pour L'Orient Le Jour. Quand on est blogueur, quand on s'apprête à lancer un projet d'investigation, comment fait-on pour bien se poser les questions et pour concocter une bonne expérience utilisateur?
Je pense que la première chose, c'est de se mettre à la place de l'utilisateur. Quand on aborde la refonte d'un site, un site média, la première chose qu'on fait, c'est se mettre à la place de l'utilisateur. Et il n'y a pas qu'un utilisateur, il y a plusieurs utilisateurs qui ont des comportements différents. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de leur répondre à eux et pas de répondre aux clients directs. En fait, il faut que nous, en tant que designers, on fasse comprendre à l'équipe avec laquelle on travaille, à la rédaction, à l'équipe avec laquelle on travaille, que le meilleur moyen d'avoir quelque chose de bien, c'est de se mettre à la place de leur lecteur. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'essayer de comprendre qui est ce lecteur, quel âge il a, combien de fois par jour il va se connecter à ce site, pourquoi est-ce qu'il est lecteur de ce site, quels sont les concurrents. Donc la deuxième chose qu'on va faire, c'est regarder tout l'environnement, toute la concurrence. Pas pour la copier, mais pour bien comprendre la thématique dans laquelle on est. Et puis après, on va faire beaucoup de bench, on va regarder beaucoup ce qui se passe dans d'autres médias. Quand on travaille pour des médias français, en fait, on regarde ce qui se fait ailleurs en France, mais le meilleur moyen d'avoir des nouvelles idées, d'apporter de nouvelles choses, c'est de regarder ce qui se passe partout dans le monde. Et si on bosse, par exemple, sur un média d'actualité générale, on peut trouver notre inspiration dans d'autres sites d'actualité générale à l'étranger, mais on peut la trouver dans un détail sur une application, on peut trouver des typographies sur des affiches, en fait.
Alors, les sources d'inspiration sont multiples, oui. Mais dans le même temps, ça veut dire qu'il faut réussir à ouvrir ses chakras, regarder les meilleures pratiques qui sont un peu partout dans le monde, depuis les États-Unis, on cite souvent les États-Unis quand on parle d'innovation, mais il faut aussi poser la question, quel est mon lecteur? Et donc, si je suis au Gabon, en Côte d'Ivoire ou au Liban, je ne vais pas penser de la même manière cette fameuse expérience utilisateur.
Non. Par exemple, là-bas, on va plutôt se dire que... mon intuition, ça serait de me dire qu'il faut favoriser la lecture sur mobile parce que le mobile est très présent. En fait, la version sur ordinateur est moins utilisée. En fait, on a un accès prioritaire au mobile. Et la chose qu'il y a aussi à prendre en compte, c'est quand on va travailler sur une nouvelle version, ça va être le poids de chargement, la vitesse de chargement, pardon. Parce que on n'a pas des réseaux qui sont forcément très bons, on n'a pas un débit qui est énorme. Et donc, c'est très bien de faire un super design avec plein de fonctionnalités, des choses qui bougent dans tous les sens. Si les gens sur leur mobile ont un débit qui est très faible, la première chose qu'ils vont faire, c'est quitter le site. Donc on va plutôt se dire, ok, on va essayer de faire quelque chose de bien, mais qui va être rapide à charger, qui va être léger. Et c'est là où en fait mon lecteur aura un intérêt à aller sur ce site et sera satisfait d'être sur ce site.
Pour le dire autrement, l'expérience utilisateur, c'est pas forcément l'effet waouh, c'est l'effet ça marche super bien.
Ouais, exactement. L'expérience utilisateur, c'est vraiment rendre service à l'utilisateur, être vigilant à en fait faire l'équilibre entre les différentes contraintes, les grosses contraintes qu'on a dans une refonte de site, par exemple, c'est la publicité. On est confronté à des formats qui sont standardisés. Et bien, ces formats, il faut que nous, notre rôle en tant qu'agence, en tant que graphiste, c'est de les remettre en cause, en fait. Oui, on a toujours fait comme ça depuis des années, mais c'est l'occasion, quand on fait une refonte d'un site, de discuter avec la rédaction, de discuter avec les agences médias qui vendent ces bannières, pour leur dire, non, là, ça va pas. Enfin, ces gros habillages qu'on a sur les homes de site prennent trop de place, trop de temps de chargement, les interstitiels font que les utilisateurs s'en vont.
Pardon. Alors, c'est quoi les interstitiels pour...
C'est des formats publicitaires qui, en fait, quand vous cliquez et vous rentrez dans un article, vous saute aux yeux et vous empêche de lire.
Alors,
ça, par exemple, ce format-là, c'est une aberration, en fait. C'est pas un bon format. On n'est pas contre la pub, il faut pas être contre la pub. La publicité, en fait, elle fait vivre aussi des rédactions. La logique de dire on va supprimer totalement la pub n'est pas forcément bonne. Par contre, la logique, ça va être de créer des formats intelligents. En fait, là, on est en 2016 et on utilise des formats qui ont été créés il y a très longtemps, la préhistoire du web. Donc, l'UX, c'est pas que faire un joli site, c'est aussi prendre en compte, par exemple, la publicité et la transformer.
Et l'UX, ce n'est pas qu'une affaire de grosses rédactions, de gros moyens. Il n'y a pas que le New York Times qui peut se payer. Enfin, je pense que c'est très important aussi de dire que se poser la question de l'expérience utilisateur, que l'on soit Mondoblogueur, que l'on soit Le Guardian ou qu'on soit Le Monde, en fait, la question, elle se pose.
Exactement. L'UX, ce n'est pas un petit luxe qu'on va se payer parce qu'on a une grosse rédaction. C'est justement, même pour des médias plus modestes, l'occasion d'émerger, d'être innovant et voilà.
Et il y a un contexte aussi qui a énormément changé, puisque les usages changent, le jeune public lui-même a des façons de s'informer qui sont différentes. On sait par exemple qu'il existe des petits outils, des petites extensions comme Adblock, qui par exemple, oui, en plus empêche parfois la publicité de s'afficher. Est-ce que vous, quand vous réfléchissez à ces questions-là, vous posez toutes ces questions-là?
Oui, on sait que les gens utilisent énormément Adblock. En fait, en France, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais je sais qu'on est un des pays en Europe les plus utilisateurs d'Adblock. Pourquoi? Parce que nos médias nous mettre de la pub absolument partout. Et ce qui est intéressant aussi, donc quand on crée un site, on sait que les gens utilisent Adblock, donc ça va supprimer la publicité. Qu'est-ce qu'on met à la place d'une publicité? Est-ce qu'on rajoute des blocs de news? Est-ce qu'on leur met un message pour leur dire, ok, vous utilisez Adblock, très bien, donc vous ne voyez pas notre pub. Est-ce que vous vous abonneriez à notre magazine dans notre version payante? Comme ça, économiquement, notre journal s'y retrouve et vous avez le confort de ne pas avoir de publicité. Donc c'est, par exemple, ça peut être de penser à ajouter des messages qui remplacent les publicités, mais qui sont pas agressifs.
Alors évidemment, la question de l'expérience utilisateur, c'est votre fonds de commerce à Datagif, mais dans le même temps, est-ce que vous pensez vraiment que soigner son expérience utilisateur, que l'on soit blogueur ou un média, ça contribue à développer l'audience?
J'en suis persuadé. En fait, si on revient à cette question de la publicité, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont plus sur certains sites parce que ils savent que sur ce site en particulier, ça va être insupportable. Il y aura de la publicité partout, notamment mobile. En fait, on retrouve souvent des formats qui ont été pensés pour l'écran d'ordinateur, qui se retrouvent en mobile et qui vous empêchent de scroller. Et là, oui, s'il n'y a pas eu de travail de fait, s'il y avait un projet bien réfléchi, évidemment que je m'abonnerais à ce site, je reviendrai sur ce site. Donc, c'est un impact énorme. Au même titre que avoir un environnement qui est allégé, sans relance dans tous les coins. En fait, un site bien fonctionnel, on a envie d'y revenir. Donc ça, ça joue. C'est...
Alors là, on a vu la coquille, mais par-delà les questions de forme, finalement, il y a évidemment aussi la question du fond. Et nous avons avec nous Karen Bastien, qui est cofondatrice d'un atelier prodigieusement créatif. Je veux parler de We Do Data. Alors ce que j'aime dans votre travail, Karen, c'est son côté artisan de la culture visuelle, de la valorisation des données, des récits, et de l'interprétation aussi finalement de ces données. Ça fait maintenant quelques années que vous cultivez d'ailleurs votre jardin. On va revenir en 2012, on écoute ce travail de We Do Data.
Au Cameroun, les élevages sont situés au nord et à l'est, dans des régions éloignées des deux grandes villes du pays. Mais la distance n'est pas la seule explication. La filière laitière camerounaise est encore artisanale. On est très loin des gros rendements européens. Une vache camerounaise donne 1,5 litre de lait par jour. Sa consœur hollandaise produit 40 à 50 litres quotidiens. Importer du lait, produit massivement par des filières industrielles en Europe, revient donc moins cher que de produire localement. Pour le consommateur, le lait importé coûte 225 francs CFA, alors que le lait local coûte au moins 300 francs CFA.
J'ai l'impression que votre marque de fabrique, ou plutôt votre credo, c'est de dire « le récit journalistique ne s'écrit plus de la même manière ». On écrit en pensant, comme on le disait tout à l'heure, à l'utilisateur. Est-ce que je me trompe, Karen Bastien ?
Non, c'est exactement ça. Puis je pense que je peux en témoigner, puisque je suis une vieille autour de la table. Je suis sortie d'école de journalisme au moment de la bulle Internet, mais j'ai été formée au papier. Donc j'ai eu une formation finalement classique, où on m'a appris à sourcer, à enquêter. Je dis pas que on n'a pas pensé à notre lecteur, mais c'est vrai qu'il n'était pas premier dans notre démarche éditoriale, parce qu'on connaissait mal. Ceux qui le connaissaient bien, c'était peut-être les gens du marketing, mais on n'en leur parlait pas, hein, parce qu'à la rédaction, on ne parle pas aux gens du marketing. C'était un petit peu voilà, deux mondes séparés. Et je pense que le web, ce que ça a changé, pour moi, journaliste, c'est que je le connais mieux, mon lecteur, parce que c'est vrai que sur le web, on pose tout un tas de petits objets qui nous permettent de savoir à quelle heure il nous lit, par quel outil, je parle d'outils, je parle de son ordinateur, de sa tablette, de son mobile, et de mieux le connaître, ça nous a forcé. Je pense aussi que la crise des médias nous a aussi beaucoup remis en cause sur notre pratique, et ça c'est, je pense, que quelque chose de très sain aussi, hein. On vit pas dans un monde très descendant où le journaliste envoyait des tonnes d'informations par ses tuyaux et ne se préoccupait pas du lecteur. Je pense que la crise de la presse nous a permis un peu de rééquilibrer cette vision un petit peu descendante, c'est vrai, qu'on avait de notre métier. Voilà, maintenant le lecteur il est premier, et puis bah voilà, c'est le web. Et puis je pense que c'est aussi l'intelligence collective d'une rédaction. C'est vrai que Florent, designer, il y a les développeurs. Nous, les journalistes, on travaillait pas avec tous ces métiers. Et je pense que la vraie différence, c'est que maintenant, il y a ces intelligences au sein d'une rédaction qui se parlent.
Donc votre envie, c'était de recréer de la relation avec le lecteur et éventuellement de maximiser l'impact des enquêtes ou des travaux que vous pouviez mener avec d'autres rédactions, notamment avec We Do Data, c'est-à-dire rentrer dans une nouvelle façon de fabriquer pour mieux servir le propos.
Oui, exactement. C'est vrai qu'on est pas mal à être passé un peu par cette crise de « mais qui me lit ?» Qu'est-ce qu'on retient du travail qui est fait? C'est pas dans un souci de lire ma signature, mais c'est dans un souci de dire mais à quoi je sers en fait. Et je pense que l'expérience utilisateur aujourd'hui, en remettant cet utilisateur au centre de ma démarche, moi redonne du sens à mon métier.
Alors justement, parlons un peu de concret. On va continuer avec un projet que vous avez, pour ainsi dire, remis en service en 2016 et qui a d'ailleurs été primé. Je veux parler du pariteur. Alors pour le dire très vite, le pariteur permet de mettre l'utilisateur au cœur des inégalités salariales entre hommes et femmes. Alors car Bastien, quel est le mode d'emploi, comment ça marche et surtout pourquoi ça a si bien marché le pariteur ?
Alors le pariteur, c'est une web application donc accessible partout en ligne qui permet en quelques clics de connaître votre différence de salaire avec le sexe opposé. Et vous allez me dire, bah, finalement les inégalités salariales, il y a eu plein d'articles sur les inégalités salariales. Effectivement, il y en avait plein qui vous racontaient que bah, les femmes en France gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes à poste équivalent. Mais une moyenne de 20%, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des femmes qui ont des différences de salaire de 40% et d'autres de 8%. Et dans cette moyenne où je suis. Et je pense que c'est ça la vraie différence aujourd'hui avec l'interactivité et les bases de données, c'est que je vais pouvoir te sortir de ce 20%. Je vais pouvoir t'offrir ta différence de salaire à toi. Et je pense que ça, c'est la grande différence, c'est que je vais plus parler à un lecteur moyen, je vais parler à toi, lecteur, mais toi, Karen, Florent et d'autres. Et je pense que du coup, l'implication, savoir en quelques clics, c'est-à-dire en disant mon sexe, mon âge, mon métier, et où je travaille, et voir apparaître cette différence de salaire qui m'est propre est vraiment quelque chose de beaucoup plus impliquant. Et du coup, en termes, effectivement, d'audience, c'est clairement quelque chose qui fonctionne, parce que je ne raconte pas une généralité qui mérite d'exister, mais je raconte une histoire personnelle.
Et donc, pour réussir en fait à rentrer dans ce type d'écriture, est-ce que ça veut dire qu'il faut, en tant que journaliste, devenir aussi designer ?
C'est vrai que designer d'information, je me prétends pas du tout sous ce terme-là, parce que je pense qu'on continue à y mettre essentiellement des éléments de graphisme ou de gens qui conçoivent des objets, par exemple. Mais finalement, je pense qu'aujourd'hui, peut-être plus le mot architecte d'information me correspondrait mieux. C'est-à-dire que effectivement, je pense le contenu, mais je pense avec l'équipe. Hein, j'insiste sur ce côté collectif de la réflexion quand on conçoit ce genre de choses. C'est vrai que je dépasse mon cadre juste. J'arrive pas avec ma base de données et puis je dis à l'équipe, bon bah maintenant on va créer une expérience. C'est effectivement, comme le disait Florent, j'essaye moi-même de mettre à la base d'utilisateur, finalement nous sommes tous des potentiels utilisateurs, et j'essaye d'organiser mon information, donc de l'architecturer, le mot est pas très joli, mais à peu près c'est à peu près ce que ça représente. Et puis ensuite effectivement il y a le talent des designers et des développeurs pour rendre ça vivant, attractif et impliquant.
Comment ça se passe par exemple quand une agence comme Datagif, Florent Guerlin, se met à travailler avec le desk au Maroc ou je sais pas, avec une rédaction en Afrique? Est-ce que vous êtes très mal vu de la rédaction, ou est-ce que vous réussissez à établir un dialogue serein, intelligent, sur la façon d'écrire cette information?
Non, justement, c'était pour cette expérience avec le Desk. Donc le Desk, c'est un média marocain qui s'est créé il y a à peu près un an, qui est vraiment parti de zéro. En fait, on a commencé à travailler avec cette rédaction, elle était en train de se construire. C'était absolument génial, parce que c'était vraiment un échange permanent. Eux étaient très curieux de travailler avec nous et d'échanger avec nous. Nous, on était super contents de travailler avec eux, parce que c'était un projet excitant d'une rédaction qui se monte. C'est pas comme redesigner un média qui existe déjà, où il y a des choses où on se dit...
Créer ex nihilo est en un certain sens beaucoup plus simple que transformer.
Alors pas forcément. C'est juste que là le projet était quand même assez clair. C'était des gens qui savaient ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire un média indépendant, donc financé par abonnement, le premier au Maroc, le premier dans la région, et un média sans publicité. Déjà ça, c'est partir d'un brief qui est assez clair. Et puis après, il a été question de discuter sur le rythme. Est-ce que on fait un fil de direct? Oui. Alors ça suppose de faire un fil de direct, d'avoir des gens pour l'assurer. Est-ce qu'on est capable de le faire? Eux avaient envie de faire de l'enquête. C'était le cœur de leur projet, un peu comme Mediapart, enfin d'être vraiment un média d'enquête. Donc très bien. Donc on crée des formats spécifiques pour ça, qui peuvent accueillir des grandes photos, qui peuvent accueillir des vidéos. On a fait une charte un peu pour accueillir de la data. Après, pour ce projet-là, on a vraiment tenu compte de l'équipe, de combien de gens y travaillaient, parce que en fait, on peut vite partir dans un truc et se dire, on va faire ça, puis on va faire un truc génial. Si derrière, la rédaction n'est pas suffisamment musclée pour le faire, très bien, mais ça va rester dans les cartons, en fait. C'était vraiment très excitant de travailler avec le Desk.
Alors, autre aspect que j'ai envie d'aborder, cette expérience utilisateur, finalement, appliquée au format et au récit, donne lieu à pas mal de possibilités, des interfaces interactives, des jeux, enfin des news games, comme on dit, c'est-à-dire des jeux, finalement, qui permettent d'entrer dans une mécanique liée à l'information, voire même des vidéos animées. Ne risque-t-on pas parfois de gadgetiser l'info? Je veux dire, est-ce qu'on risque pas de divertir plutôt que d'informer? Et où est cette frontière d'ailleurs, Karen Bastien?
La frontière, effectivement, c'est notre obsession, parce que effectivement, finalement, on est sur une ligne de crête en permanence. Le fond, la forme, faire en sorte que la forme ne prenne pas le pas sur le fond, faire en sorte que l'interactivité, l'effet waouh, effectivement, n'écrase pas tout. Je dirais que c'est à chaque projet que ça se construit en avançant. Donc, ça veut dire beaucoup d'humilité dans l'équipe, c'est-à-dire que chacun doit se mettre au service de l'information. Il n'y a pas un métier qui se met plus particulièrement en avant. Et c'est vrai que là-dessus, ce qui nous aide, ça peut être effectivement les tests utilisateurs, les prototypes. C'est peut-être aussi une différence par rapport à ce monde d'avant où je produisais de l'information et je l'envoyais pas en primeur à des utilisateurs ou des lecteurs qui me disaient « Oh ouais, franchement, t'as mal écrit, cette accroche, bof ». Maintenant, avec le web, c'est vrai qu'on a souvent un certain nombre d'utilisateurs bêta qui vont avoir un regard extérieur. Des fois, au bout d'un moment, on est un petit peu trop dans notre sujet aussi et qui vont nous alerter sur « Mais là, je comprends rien, il y a plein de fausses bonnes idées en UX ». Et puis, effectivement, qui vont nous arrêter quand, à un moment, effectivement, le petit côté design où on a fait en effet de trop. Voilà. C'est très subtil, hein. Donc c'est un défi à chaque fois.
Et c'est une rhétorique particulière à prendre en main. En tout cas, parmi les plus ardents défenseurs des questions d'expérience utilisateur ou du X, comme on le disait, il y a la question, au fond, de l'efficacité de ce genre de récit. On écoute.
Les JO, un esprit plus si sain dans un corset. Bonjour. Une flamme, frêle lueur au bout d'une torche, passée de main en main comme un espoir qui jamais ne s'éteint, qu'il pleuve, neige ou vente. Ah, oh, le beau message de la flamme olympique. Pour arriver à Sotchi en 2014, elle a parcouru 65 000 km en 5 mois à travers l'immense Russie. Elle est allée au pôle Nord et au fond du lac Baïkal. Une fusée l'a même propulsée dans la Station Spatiale Internationale, la toute puissance de l'homme sportif. Et de son portefeuille. Ce parcours fut le plus long et le plus coûteux de l'histoire de l'olympisme. Au final, les Jeux de Sotchi auraient coûté entre 17 et 36 milliards d'euros, jusqu'à 4 fois l'enveloppe prévue à l'origine. Rien d'inquiétant. Entre 1960 et 2012, le dépassement du budget des Jeux Olympiques frôle les 180% en moyenne. Ce sont les JO de Montréal en 1976 qui détiennent le record avec un score de 796%. Quand on aime, on ne compte pas.
Alors c'était le data gueule qui portait sur le sport mondialisé, du pain et des jeux. À vos yeux donc, il y a vraiment cette idée, j'imagine, dès lors qu'on recourt à de l'animation, à des nouvelles techniques journalistiques, de renforcer l'impact et le fait de faire ressortir, de rendre saillant des éléments qu'on n'arrivait pas à voir dans les articles traditionnels.
Oui, c'est exactement ça. C'est vrai qu'un article, alors bien sûr, il y avait le travail de maquette, les intertitres, l'accroche, le chapeau, enfin voilà, tous ces petits éléments qui, normalement, rendaient, offraient des entrées de lecture. Et c'est vrai qu'avec le web, le motion design, la vidéo, les gifs, on a encore plein de nouveaux outils, finalement, dans notre palette de narration. Donc finalement, c'est très excitant pour les journalistes. Donc c'est trouver le bon format pour la bonne histoire.
Alors pour en savoir un peu plus, justement, sur les ficelles de ce métier, s'intéresser à la notion d'expérience utilisateur, je vous propose de faire entrer dans la conversation Flavien Plouzenec, qui est journaliste, qui est formateur spécialisé justement dans ces questions d'expérience utilisateur pour les médias. Et Flavien fait partie de ceux qui essaient de s'approprier pleinement ces questions. Il participe notamment à ce qu'on appelle un Slack, un groupe francophone qui partage des liens et des astuces autour de cette notion d'expérience utilisateur. Bonjour Flavien.
Bonjour Julien.
Qui sont ces journalistes qui échangent autour de ces questions sur ce groupe, sur Slack, mais surtout, qu'est-ce qu'ils fabriquent tous ces journalistes à échanger autour de la notion du X for News?
Alors, oui, comme tu l'as dit, donc la communauté, elle a été créée il y a à peu près un an. On s'approche gentiment vers la centaine de membres. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des journalistes, mais on a aussi des développeurs, des chefs de produits, des chefs de projets, un peu tous ces nouveaux métiers qui sont venus dans les rédactions. On a besoin d'échanger des liens, des ressources, des outils, puisque c'est un métier qui évolue sans cesse, qui se cherche, qui a des méthodes qui progressent. Je pense qu'il y avait vraiment, on a senti qu'il y avait un besoin de parler entre nous, de créer cette communauté pour parler des enjeux, donc de l'expérience utilisateur. Pourquoi? Parce que il y a des méthodes qui existent, qui nous permettent d'aller plus vite, de collaborer avec l'ensemble des services de la rédaction. Donc il fallait échanger sur ces méthodes, mais il y avait aussi peut-être des choses qu'on a envie de partager, qu'on a envie de distiller dans les rédactions, des notions comme simplement l'idée que l'utilisateur doit être placé au cœur des innovations. Quand on crée un nouveau produit, quand on veut évoquer le contenu, il faut commencer par se poser la question de l'utilisateur, où il est, comment il accède à l'information. Et donc, ce sont des notions comme l'empathie, l'éthique, l'accessibilité, des choses dont on peut discuter pour ensuite le faire savoir, le faire connaître dans nos rédactions ou dans nos agences respectives.
Et précisément, pour être très concret, la communauté UX for News a justement pris le temps, et c'est là où l'intérêt, j'ai presque envie de dire, de le partager avec les internautes et auditeurs de l'atelier, a traduit un guide qui permet de revenir sur toutes ces questions de journalisme et de design. Comment on fait pour vous contacter?
Alors, sans doute la chose la plus simple, c'est de nous suivre sur Twitter. Donc, c'est @UX4News. Et à partir de là, on vous invitera sur le Slack. Et puis, c'est un document partagé qui est facile d'accès. Donc, c'est un petit peu organisé pour qu'on se marche pas sur les pieds. Et vous êtes les bienvenus et toutes les bonnes volontés sont très appréciées au sein de la communauté UX4News.
Merci Flavien.
Eh bien, merci à vous.
Karen Bastien, Florent Guerlain, retour à Paris. Petite et dernière question, année qui annonce la présidentielle en France. J'imagine que beaucoup de médias commencent à se poser des questions autour des projets, des sites, voire de la façon dont ils vont couvrir cet événement. Qu'est-ce que vous pressentez? Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre? On va peut-être commencer par Karen.
Je pense qu'il va falloir s'attendre à des surprises. Je pense que notre grosse interrogation aujourd'hui, et c'est une interrogation de tous les médias, c'est que différentes études, articles sont sortis ces derniers temps sur le fait que les lecteurs ne croient plus aux faits, aux data. C'est-à-dire que ce socle sur lequel nous on s'appuyait pour apporter un nouveau journalisme ne semble pas totalement fonctionner. On le voit avec la campagne de Trump et d'autres, c'est-à-dire qu'il y a une très grosse sensibilité à l'émotion, à l'émotionnel. Et donc c'est là, je pense, que l'UX, c'est-à-dire que en tant que journaliste, je peux pas accepter ça et me départir des faits et des datas. Simplement, je sens bien qu'il va falloir les faire passer autrement par effectivement des choses plus émotionnelles, peut-être plus par le design. Et en tout cas, il va falloir surprendre.
Florent Guerlain, des attentes en particulier ?
J'ai énormément d'attentes sur la présidentielle française. En fait, on voit ce qui se passe avec la présidentielle US. Il y a vraiment un niveau qui est énorme. Il y a beaucoup de médias qui proposent des choses vraiment géniales. Et je suis très étonné, en fait, qu'en France, alors même qu'on a deux primaires à droite, à gauche, je suis assez étonné, en fait, qu'on est maintenant rentré dans le système des primaires. Et en fait, on a aujourd'hui pas de choses spectaculaires. J'ai l'impression que chaque présidentielle, on fait un peu les mêmes recettes, les mêmes quiz, les mêmes petits jeux. Et moi, j'attends vraiment beaucoup plus, en fait. Je suis très déçu de l'inexistant, en fait, qu'il y a actuellement en France. Et bon. J'espère vraiment que dans les semaines à venir, j'espère que des médias ont préparé des choses un peu là en secret et vont sortir des choses spéciales, parce que je suis très déçu qu'il n'y ait rien encore.
Bon, alors on va rester vigilants. Karen Bastien, Flavien Plouzenec, Florent Guerlain, je vous remercie. Je rappelle aux auditeurs que toutes les références évoquées dans cette émission sont à retrouver sur le site atelier.rfi.fr. Et on se retrouve la semaine prochaine pour faire le point sur la transformation des pratiques à l'intérieur des deux rédactions francophones que sont letemps.ch et lemonde.fr. D'ici là, n'hésitez pas à interagir avec l'atelier sur les réseaux sociaux. L'Atelier des médias, une émission préparée par Manon Mella, Mathias Virili, Camille Deloche, à la réalisation Simon De Creuse, au micro Julien Lebotte. Un petit coucou à Laïa Malouf et félicitations aux jeunes parents. L'Atelier des médias vous salue bien, vous êtes sur RFI, merci d'être à notre écoute.
Géopolitique, le débat.